Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h à la radio Sino de Bankass, même heure sur les pendules de la radio Adar de Ménaka. Au sommaire de cette édition, des localités du nord et du centre continuent d'être sous la pression des hommes armés. Des attaques ont fait plusieurs morts ce week-end dans les cercles de Bankass et Nyono. Le Mali et la Turquie vers un renforcement de leur coopération. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la Turquie est en visite de 2 jours au Mali dans ce sens. Cannes Côte d'Ivoire 2023 pour le compte des 8e de finale. Le Mali affronte en ce moment le Burkina Faso au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Le développement de ces titres avec Juliette Coulibaly, Mamadi Keïta est à la technique. Des attaques ont visé des localités du centre du pays ce week-end, faisant plusieurs morts. Au nord du pays, la présence des hommes armés oblige des habitants de certaines localités à quitter leur village. Moussa Malé Sissoko nous fait le point.
Au centre, une dizaine de civils ont été tués dans une attaque terroriste le 29 janvier dans la commune rurale de Mariko, cercle de Nyono. D'autres sources indiquent qu'une autre attaque a visé le même jour Moussaouéré, faisant des victimes. Les villages d'Ogota et Ouimbim, commune de Ségué, cercle de Bankass, ont été attaqués le 27 janvier par des hommes armés non identifiés. Ces incidents ont causé des morts et des blessés. Des maisons brûlées et d'autres effondrées sur les occupants témoignent des sources locales. On note des disparus, des motos et des bétails emportés, selon ces mêmes sources. Le calme serait revenu dans ces deux localités qui se vidaient déjà de leurs habitants. Au nord du pays, le village de Bara, à 25 km d'Ansongo, deux braqueurs neutralisés par l'armée malienne alors qu'ils tentaient de passer à l'acte. C'était le samedi dernier. Par ailleurs, la jeunesse de Tapital Poulaku appelle les autorités à ouvrir une enquête approfondie sur les tueries perpétrées dans la commune de Mourdia par des individus désarmés.
Le président du conseil régional de la société civile de la région de Ménaka alerte sur un manque de vivres les prochains jours si rien n'est fait. Selon lui, des mesures urgentes s'imposent face à la situation. Sidi Barka est joint au téléphone par Moussa Malé Sissoko.
Le blocus est réel et ça date aujourd'hui de 2 semaines. Dès qu'on a eu l'information, notre première activité c'est de rencontrer le gouverneur pour le notifier quand même nos craintes par rapport à la situation alimentaire qui était déjà criarde avant même le blocus, parce qu'il y a longtemps que la route qui menait à Ménaka et du Niger est bloquée et la route qui va encore vers l'Algérie est encore bloquée. Donc Ménaka ne recevait que de la route d'Ansongo, Ménaka, et qui vient d'être bloquée. Les prix des denrées alimentaires ont grimpé, donc vers un manque même de vivres. Le gouverneur a rencontré les commerçants par rapport à cette situation pour essayer de voir comment ils peuvent quand même aider à soulager la situation.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont notifié leur décision de retrait de la CEDEAO. Ils l'ont fait à travers un communiqué ce lundi 29 janvier 2024. Toutefois, des observateurs indiquent qu'il faut environ une année pour que le retrait soit acté. Dr Abdoul Sogodogo, spécialiste en relations internationales, nous explique les procédures à suivre. Il était l'invité du Grand Dialogue de ce lundi.
Et il dit que je me retire, c'est le droit d'un État. Maintenant, mais il est obligé quand même d'observer les procédures en la matière. Et ces procédures, c'est son consentement lui-même. L'État n'est limité que par sa propre volonté. Et c'est une continuité. À un moment donné, le Mali, en intégrant, on peut même dire en créant, la CEDEAO a mis ses conditions avec ses États-pères qui est voilà, cette période d'un an pour l'effectivité. Et ça a tout son sens parce qu'il y a des affaires en cours. Vous voyez, il y a des Maliens en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans d'autres pays. Il y a des entreprises insalubres. Il va falloir se donner un temps et de préparer justement toute la procédure, les textes juridiques, aller vers peut-être d'autres types d'accords. Il y a beaucoup de choses techniques. Rassurez-vous que tout cela est conforme au droit, quoi.
Comme je vous le disais dans le sommaire, le Mali et la Turquie vers un renforcement de leur coopération. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la Turquie est en visite au Mali depuis hier dans ce sens. Et la délégation a tenu une rencontre avec la partie malienne. Fatoumata Kodjo était à la rencontre pour Studio Tamani.
Monsieur Ahmed Ildis s'est réjoui des échanges avec la partie malienne. Selon lui, cette visite est l'occasion pour la Turquie de consolider ses relations d'amitié, de fraternité avec le Mali.
Nous devons conclure des accords pour pouvoir améliorer nos relations avec le Mali. Nous croyons qu'en Afrique, les solutions locaux sont les meilleures solutions. Les décisions souveraines des pays doivent être respectées.
Aujourd'hui, la Turquie partage la nouvelle vision des autorités maliennes. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali.
Nous entretenons aussi une bonne coopération sur le plan sécuritaire en faisant recours à une technologie de la Turquie, notamment à travers l'usage de drones, qui a été décisif pour aider nos forces de défense et de sécurité.
Pour accélérer cette collaboration, le Mali est invité à tenir la prochaine session de la commission mixte de coopération entre les deux pays au mois de juin prochain à Ankara.
Le journal de la CAN, suivez l'actualité de la CAN sur Studio Tamani.
Les dernières rencontres des huitièmes de finale se jouent aujourd'hui. Les Aigles du Mali affrontent en ce moment les étalons du Burkina Faso et le Mali mène déjà 1-0. À 20h, les Lions de l'Atlas du Maroc jouent contre les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Hier, en conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur du Mali, Eric Sekouchiel, a dit croire aux chances de son équipe dans ce duel entre pays frères. Il est au micro de notre envoyé spécial Zamogo Akorogo.
Je me suis préparé pour cette compétition. Ça a toujours été mon objectif numéro un. Je ne dis pas que j'allais la gagner, je ne dis pas que j'allais la perdre, mais j'ai toujours voulu jouer cette compétition. Et aujourd'hui, sur un plan plus personnel, c'est une satisfaction d'être là. Et ce sera une grande satisfaction après le match, s'il y a victoire. Voilà, moi aujourd'hui, je suis focalisé sur mes joueurs, sur l'entourage de cette équipe, et je suis focalisé sur le match qui arrive, sur notre projet de jeu, sur notre plan de jeu, l'un des matchs les plus importants du football malien. Le match qui arrive est toujours le plus important. Là, pour moi, c'est très clair, c'est peut-être l'un des matchs les plus importants. Déjà pour cette génération, parce que cette génération a besoin de gagner des matchs et a besoin d'avoir finalement cette consécration par rapport à leur talent, voilà, qu'ils n'ont pas eu.
Et les Aigles du Mali viennent de marquer leur deuxième but. Ce match Mali-Burkina est perçu par des ressortissants burkinabés résidant au Mali comme un match amical. Parmi eux, certains soutiennent la victoire du Mali sur le Burkina, d'autres le contraire. Ils se sont exprimés à Sikasso, Koutiala, Badjangara, Ségou, Yoroso et Bamako. Ce micro-trottoir est réalisé par Mamadou Samasekou avec l'appui de nos correspondants.
Le papa, c'est l'AES. L'essentiel est que l'une des deux équipes là aille à la finale et remporte la coupe. Je suis pour la victoire du Mali.
Que le meilleur gagne. Pour moi, quand même, je supporte le Burkina Faso.
Nous sommes très heureuses. Pour nous, c'est un match amical entre des frères. C'est la même famille. Quel que soit le gagnant, la coupe revient en famille.
On ne peut pas prédire le vainqueur avant le match. Quel que soit le résultat, c'est une victoire de l'Afrique. Que les gens comprennent ça.
Quel que soit le vainqueur entre le Burkina et le Mali, c'est une famille. Il n'y a pas de rivalité entre nous. Le football, c'est un jeu. Que le meilleur remporte la coupe.
En football, il ne faut jamais célébrer la victoire avant le coup de sifflet final. C'est la leçon que nous enseigne l'anecdote d'aujourd'hui et elle est signée Ziadata Maïga.
Match d'ouverture de la CAN 2010 en Angola. La rencontre oppose le pays hôte, l'Angola, au Mali. À 11 minutes du coup de sifflet final, les Palancas Negras mènent 4-0. Les stades étant loin du centre-ville, des supporters angolais quittent les gradins pour rentrer à la maison croyant que le match est déjà plié. En route, dans leur véhicule, ils chantent, dansent et font des safaris sur la route. Mais ils avaient oublié qu'un match n'est jamais gagné avant le coup de sifflet final. Pendant qu'ils célébraient en cours de route, le Mali remonte les 4 buts. Et quand ses supporters arrivent en criant de joie à la maison, ils trouvent que tout le monde président Famy était déçu. Et c'est là où il se rend compte que le score n'était plus 4-0, mais 4-4. Comme quoi, il ne faut jamais jubiler avant la fin du match.
Il ne faut jamais jubiler avant la fin du match. Et c'est sur cette anecdote que se referme cette édition présentée par Juliette Koulibaly. Mamadi Keïta était à la technique. Mais avant de se quitter, nous recevons Imirana Kilou-Maïga pour nous introduire le grand dialogue. Bonsoir Imirana, tu aborderas quel thème avec tes invités?
Bonsoir Juliette Koulibaly, ce soir nous allons aborder la fin de l'accord pour la paix et la réconciliation avec Omar M.C. Koné, membre du Front du refus de l'accord d'Alger, Dr Brahim Mamadou Koné, politologue, et Jean-François-Marie Camara, enseignant-chercheur à l'Université des sciences politiques et juridiques de Bamako.
Merci Mirana et bon débat. Vous avez la possibilité de réécouter ce journal en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Dans la région de Ségou, la situation sécuritaire connaît cette année une accalmie contraire à l'année dernière. Malgré tout, la puscose règne toujours par endroits, surtout du côté des agricultrices. Tel est le constat dressé par notre équipe de reportage qui a sillonné la zone dans la semaine du 11 au 17 décembre 2023. Les détails dans ce magazine « Toutes les femmes du Mali » réalisé par Moumine Sendebou.
Près de 14 000 femmes évoluent dans le domaine de la riziculture dans la 4e région du Mali, d'après des responsables de l'Office du Niger. C'est avec la peur au ventre qu'elles se rendent aujourd'hui dans leur champ, raconte une exploitante. Elle réside dans un village du cercle de Nyono, à 60 km de Ségou.
Nous faisons ce travail dans des difficultés. Nous venons au champ en courant et nous rentrons en courant. Parce que dès que nous commençons les travaux, nous entendons des coups de feu et apercevons des balles. On a la peur au ventre au quotidien, car tu peux perdre la vie à tout moment.
À la peur des attaques des hommes armés s'ajoutent les dégâts qui cause des troupeaux de bâches révèle une autre productrice de riz de la même zone.
Nous avons des connaissances qui ont été assassinées à domicile. C'est ce qui fait que nous avons de plus en plus peur. Des troupeaux de bétail nous fatiguent aussi. À cause de cette erreur, des enfants qui nous assistaient n'osent plus venir au champ.
La situation semble plus détendue à Djoro, une commune du cercle de Ségou. Pourtant, au début du mois de novembre 2023, le cercle a fait l'objet d'une attaque. Elle avait ciblé des machines d'une entreprise chargée du bitumage, des lacs Banankoro-Djoro. Sur place, c'est avec des pas de danse et de champs que des agricultrices nous ont accueillis. Marama Traoré, agricultrice à Djoro.
Je ne sais pas m'exprimer, mais cultiver est pour moi une passion. J'ai la force et le courage de le faire. Nous le pratiquons chaque année dans l'espoir d'avoir au moins 40 sacs de riz.
Nafissatou Maïga a fui l'insécurité à Nyono pour se réfugier à Djoro, une zone rizicole où elle parvient à s'épanouir.
La vie est devenue très difficile dans notre localité à cause de l'insécurité. On ne peut plus produire du riz. Tu ne peux même pas sortir à cause des coups de feu. Comme ici c'est un peu stable pour le moment, j'ai donc décidé de venir voir mes oncles. S'ils me donnent un peu de riz, je retournerai vendre ça pour subvenir à mes besoins.
Malgré l'insécurité qui règne dans la zone, des leaders coutumiers soutiennent que les femmes occupent un rôle prépondérant dans le domaine de l'agriculture, notamment la production du riz. Omar Togora, coordinateur des chefs de quartier, village et fraction de la région de Ségou.
Depuis toujours à Ségou, les femmes cultivent, aident les hommes et les encouragent. Certaines ont même eu des distinctions honorifiques. Par contre, ces dernières années, de nombreux hommes ont fui les champs, a fortiori des femmes à cause des actes de terreur. Des femmes ont été victimes d'enlèvements et de pertes de biens. Aujourd'hui, nous remercions Dieu.
Du côté des responsables de l'Office du Niger, ils saluent le courage et la bravoure des agricultrices. Ils encadrent et outillent ces dames à mener à bien leurs activités. Bamoui Keïta, directeur de l'information, de la planification et des statistiques de l'Office du Niger.
En termes de prestations de services, 90% des activités de repiquage sont réalisées par des groupements de femmes. Entre l'Office du Niger et ces dames, c'est plutôt des rapports d'encadrement. Parce que l'Office du Niger, sa mission principale, c'est de veiller à ce que la terre soit bien exploitée. Et en termes même d'accès aux champs, les femmes ont vraiment souffert de cette situation. Ce qu'on fait d'abord, on alerte. Et c'est pour ça que la campagne s'est déroulée dans une relative accalmie.
D'après une citation d'Albert Einstein, au milieu d'une difficulté se trouve une opportunité. Et c'est cette note d'espoir qui motive ces dames dans cette zone risicole.